curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes mardi 11 avril. Bonne journée. Bienvenue au 98.5. Très, très belle semaine qui est en vue avec des températures beaucoup plus confortables. Déjà 11 degrés ce matin. Ça demeure couvert. Ce sera pour une partie de la journée. Il y aura quelques moments de soleil avec des vents jusqu'à 60 km/h et le maximum aujourd'hui, 14 degrés. Demain, c'est à peu près des mêmes conditions. Donc, couvert avec un mercure à 12, 13, 14 degrés. Jeudi, à encerclé dans le calendrier, là, on prévoit du soleil 21 degrés et vendredi, du soleil 19 degrés. Donc, des températures agréables et présence du soleil, surtout vers la fin de la semaine. Bon, ben faisons le point sur la panne d'électricité. Il y a encore 14 000 clients d'Hydro-Québec toujours sans courant. On pense évidemment pouvoir en rebrancher une partie et peut-être la totalité aujourd'hui, on verra. Mais il y a des gens qui, donc, auront été privés d'électricité pendant pratiquement une semaine dans certains coins plus isolés. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette panne qui a touché plus d'un million d'abonnés au Québec? J'ai entendu beaucoup de commentaires, beaucoup de réflexions en fin de semaine. D'entrée de jeu, je veux saluer ce matin les équipes de Hydro-Québec qui se sont déployées depuis mercredi pour redonner l'électricité aux Québécois. Des quarts de travail de 16 heures par jour. C'est le congé de Pâques également pour tout le monde. Ce sont aussi des employés qui, personnellement, étaient privés de courant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on chiale beaucoup. Mais en même temps, il faut reconnaître, parce que moi, je les ai vus travailler dans mon coin. Il y avait un poteau de cassé, puis ils sont venus en fin de semaine. Puis ça prend du temps. Ça se fait pas comme ça, puis il faut couper des branches d'arbres. Et donc, je pense que le premier réflexe qu'on devrait avoir ce matin, c'est de les remercier de leur travail, qui n'est pas encore complété, là, mais qui devrait l'être bientôt. Premier constat. Deuxième constat. Il est clair que le réseau d'Hydro-Québec est un réseau fragile. Pourquoi il est fragile? Parce qu'il n'a pas été entretenu suffisamment, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis assez de fric pour couper les branches d'arbres qui nuisent, pour s'attaquer à la végétation qui prend du volume et qui menace les équipements, surtout quand il vente, puis surtout quand il y a du verglas. Donc, c'est un réseau fragile. Dans une période de changement climatique où les températures extrêmes seront de plus en plus fréquentes. Alors, c'est quoi le plan de match pour Hydro? Beaucoup de gens m'ont écrit en fin de semaine, puis je vais donner l'exemple de l'arrondissement d'Outremont, où il y a beaucoup d'arbres matures qui sont tombés près d'une église, exemple au coin de Sainte-Catherine, Côte-Sainte-Catherine et Laurier. Des arbres dans les parcs, j'ai vu le parc La Fontaine aussi. Quand vous regardez les chiffres officiels là, qui ont été recensés, on parle de 4500 branches et 900 arbres qui sont tombés à Montréal, selon le relevé de la presse canadienne. Et pas des petits arbres. Et pour beaucoup de propriétaires, c'est compliqué d'obtenir la permission de couper un arbre, de faire de la place. Hydro-Québec a pas fait son travail correctement depuis les dernières années. Là, il se rattrape un peu. Je rappelle que la VG a conclu qu'il y avait plus de pannes puis que les pannes duraient plus longtemps. Puis est-ce que c'est le scénario qu'on est appelé à voir dans les prochaines années? Peut-être. On ne se le souhaite pas personne. On est capable de vivre avec une panne d'électricité 2-3 jours, là. Mais c'est pas agréable, c'est sûr. Mais il y a un enjeu majeur. Puis là, quand je vois tous les élus se faire aller, là, dans le monde municipal, puis promettre l'enfouissement des fils, puis de dire, nous, on va faire comme ça, puis il faut se questionner. Ça fait longtemps, là, qu'on voit venir, et que ces pannes à répétition, là, ben, il y en a beaucoup depuis quelques années. Il y a un autre enjeu à ne pas négliger, parce que beaucoup de gens m'ont dit, mais comment ça se fait qu'à Montréal, il y a autant de pannes que ça? Évidemment, le verglas est tombé. Il y a des pannes par, je dirais, secteur. Il y a des îlots d'abonnés qui sont privés de courant. Ça représente 2000, 3000 personnes à la fois. Et il y a une réalité. Ça n'a peut-être pas paru en fin de semaine parce qu'on a rapatrié des équipes. Mais Radio-Canada disait, et beaucoup de gens me l'ont répété en fin de semaine, c'est devenu compliqué de recruter des travailleurs d'Hydro-Québec pour œuvrer à Montréal. Beaucoup, dès qu'ils ont une possibilité, se poussent vers d'autres régions immédiates de Montréal et même vers l'Estrie et même Lanaudière et même la région centre du Québec. Pourquoi? Parce que quand tu t'en viens travailler en ville, il faut que tu traverses les ponts parce que tu habites souvent la banlieue, parce que l'habitation coûte cher. Il y a, disons, un degré de complexité à manœuvrer dans les rues de Montréal. Montréal n'est pas si, je dirais, une ville tentante là, pour beaucoup de travailleurs. Fait que ça, c'est un enjeu auquel Hydro-Québec est confronté. D'ailleurs, je rappelle qu'on est en période de négociation pour le renouvellement de la convention collective. Autre élément important, comment ça se fait qu'il y a autant de résidences pour personnes âgées, de centres de soins de longue durée qui n'ont pas été rebranchés de façon plus rapide? Moi, je pensais qu'il y avait des ordres de priorité et que les RPA puis que les CHSLD en faisaient partie. Il y a un auditeur qui m'a écrit, sa mère qui est à mobilité réduite est dans un CHSLD. Puis là, il m'a écrit en fin de semaine, toujours pas d'électricité depuis mercredi. Elle est dans son lit parce que l'équipement pour la mettre dans son fauteuil roulant n'est pas fonctionnel. Tu dis, pardon, il n'y a pas de génératrice. Pour l'équipement, il n'y a pas moyen de... Il faut qu'elle reste couchée. La bouffe, dit-il, qui est habituellement acceptable, était décevante. Le personnel a été exemplaire, me dit cet auditeur. Mais là, on ne comprend pas, puis il y a plusieurs familles de patients, puis on peut répéter ça dans plusieurs établissements, qui se demandent, mais comment ça se fait que ça n'a pas été priorisé? Comment ça se fait que ça n'a pas été fait, disons, de façon plus efficace? Alors, le ministre Pierre Fitzgibbon sera avec nous pour en jaser ce matin, mais il y a des leçons à retenir. Puis je dirais aussi, c'est clair que c'est pas agréable, tu sais, parce que tu perds l'électricité, puis là, on voit notre dépendance à l'électricité. Puis là, on se dit un jour, quand le parc automobile, ça va être 100% de véhicules électriques, ça va ressembler à quoi? Puis là, t'as pas d'Internet, puis t'as pas de télé, puis heureusement, température extérieure, pas trop pire, mais ça exerce la patience. Et moi, je suis plutôt zen dans ces affaires-là, parce que je me dis, bon, tu veux faire. Ce qui n'empêche pas qu'on peut soulever bien des questions sur le réseau de distribution électrique, sur les budgets qui sont prévus pour le rendre plus fiable, parce que je persiste à dire, je sais que le ministre a dit, non, c'est pas le réseau qui est pas fiable, c'est la végétation qui a causé le problème. M'excuse, mais c'est parce que quand t'as des arbres autour, puis des branches, puis des feuilles, ben ton réseau, il est pas mal moins fiable que quand il est dégagé. Hier matin, François Legault se lève et décide à 6h30 le matin d'envoyer un gazouillis pour faire l'éloge de notre fonds catholique, faisant référence à un article de Mathieu Bock-Côté dans le journal de Montréal. Et évidemment, là, ça a été le déferlement de commentaires des partis d'opposition, des citoyens qui disent « Mais comment ça se fait que le PM qui nous pousse la laïcité nous fait l'éloge comme ça, nous réfère à un texte de Mathieu Bock-Côté? » Bon, j'ai envie de vous dire là-dessus que ça fait longtemps, là, ça fait plus de 60 ans que les Québécois ont tassé l'Église catholique de la sphère de décision au Québec. L'Église catholique a joué un rôle dans les soins de santé, en éducation, mais l'Église catholique est également une institution basée sur l'inégalité, qui a gardé le bon peuple dans l'obscurantisme, qui est discriminatoire face aux femmes, et je vous parle même pas des abus commis contre des jeunes autochtones puis contre des Québécois dans différentes communautés. Mais le fait est que l'Église catholique a marqué. La preuve, c'est qu'on a un paquet de journées fériées au Québec qui sont directement connectées sur la religion. Fait qu'on peut pas faire abstraction de la religion. Marquez qu'à 6h30 le matin, de lancer un débat sur Twitter sur des questions aussi sensibles que ça, pas trouver que c'était très, très habile. Puis après ça, il dit, ouais, mais le patrimoine, la religion, on comprend tout ça, là, que il faut remarquer le rôle de l'Église dans la société québécoise. Mais une fois qu'on a dit ça, là, c'est que nous, on a fait un virage pour beaucoup de Québécois, pour une très forte majorité. On a encore des pratiques religieuses. On a encore nos habitudes. Mais pour la plupart, si on est croyant, on n'est pas trop pratiquant, puis il y en a un paquet qui sont athées. Fait que quand tu vois le PM, je pense que c'est surtout ça l'enjeu. C'est qu'il a tweeté un texte de Mathieu Bock-Côté, qui est perçu comme le chroniqueur identitaire qui nous prépare au grand remplacement, qui se tient avec Éric Zemmour. Puis bon, ce courant-là identifiait une droite identitaire. Puis de voir le PM du Québec, je pense que beaucoup de commentaires négatifs viennent aussi de là. Mais c'est pas une bonne idée d'aller nous parler un lundi de Pâques de la place de la religion. C'est quelque chose qui demande une réflexion un peu plus, disons, aiguisée. Puis il y a beaucoup de commentateurs ce matin qui disent, oh, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, mais fait que tu peux pas d'un côté dire j'interdis la prière dans les écoles, puis après ça nous parler de l'Église puis du patrimoine, qui est une réalité, mais je le répète, qui demande quand même pas mal plus de nuances. En parlant de religion, on sait que on est en période du Ramadan. Il y a eu une attaque contre une mosquée à Toronto. Un gars qui a prononcé des insultes islamophobes, qui a foncé avec son véhicule vers quelqu'un qui se dirigeait vers la prière. Au New Jersey, attaque au couteau dans une mosquée. Puis à Montréal, on a un gars avec une pelle au centre-ville et qui veut attaquer le jeune homme Malik qu'on a entendu tantôt, qui s'en allait prier. Et notre merveilleux système le remet en liberté. Le gars est entré, a défoncé une porte vitrée pour se plonger dans la mosquée. On nous dit, peut-être pas un crime haineux, c'est sûrement pas hyper sympathique, là. Et comment se fait-il que on le remet en liberté, reviendra au mois de mai? L'enquêteur n'a pas eu le temps de rencontrer la victime encore. Mais c'est quoi ce service-là? C'est quoi ce système-là? Il y a déjà assez de gens pas bien dans les rues. Si on arrête quelqu'un qui vient de commettre, parce que je trouve pas ça banal, moi, de foncer vers un jeune homme puis le menacer, il sent comment le kid aujourd'hui? Non, nous autres, là, on a décidé dans notre grand système qu'on remet les gens en liberté. La réhabilitation. On ne peut pas le garder en dedans. Comment ça se fait qu'on ne peut pas le garder en dedans? 72 heures? Une enquête de remise en liberté? Le laisser dépomper peut-être, le monsieur? Il repart où? Il s'en va où? Chez eux, tranquille? C'est quand même assez bizarre. Dans les autres bizarreries de la matinée, le Journal de Montréal nous rapporte le cas d'un criminel qui est condamné pour avoir volé des milliers de dollars et qui est toujours à la tête d'une garderie de Montréal subventionnée. Il a reconnu sa culpabilité. Il y a déjà un an de ça, c'est le propriétaire d'une garderie qui s'appelle le Petit Monde de Sofia. Lui s'appelle Alain Sarapucciello, accusé de fraude en juin 2019. À l'époque, la victime estimait avoir été frustrée de plusieurs dizaines de milliers de dollars dans le financement d'une garderie. Et il gravite encore dans l'univers des garderies. Le ministère a décidé de ne pas intervenir, parce qu'il y avait la présomption d'innocence, quand il a créé une autre garderie d'Hochelaga-Maisonneuve pour 80 enfants. Et on a dit, ben, c'est peut-être un fraudeur, mais la sécurité n'est pas en péril. Sérieusement, là. Et bon, c'est quand même assez bizarre. Rapidement, on fait le tour de quelques autres nouvelles. D'abord, à surveiller demain la Banque du Canada qui va statuer sur le taux directeur, donc un effet direct sur nos taux d'intérêt. Et je lisais d'ailleurs ce matin le Fonds monétaire international qui laisse entrevoir, sur le plan global, je parle pas que du Canada, mais une baisse à venir des taux d'intérêt. Peut-être pas hyper rapide, mais que finalement, on pourrait se retrouver sur un horizon quand même assez, je dirais, limité, à des taux qui existaient avant la période de COVID. Est-ce que ça va prendre un an, deux ans? Mais c'est une possibilité qui est soulevée par le Fonds monétaire international. Jean-François Lépine sera avec nous. On va parler de l'Ukraine. On va parler également, d'ailleurs, le premier ministre ukrainien qui est au Canada. Pour ce qui est des fuites du Pentagone, c'est hyper intéressant quand vous lisez ça. Ce sont des documents. D'ailleurs, on parle de documents donc secrets qui ont été photographiés. C'est assez rudimentaire. Et qui ont été placés en ligne depuis le mois de mars. Beaucoup de gens ont consulté et beaucoup de gens ont accès à ces documents. Alors évidemment, là, c'est la chasse, savoir qui a fait ça. Des informations sur les ennemis, sur la Russie, sur la faiblesse de la défense ukrainienne. Donc, des choses qui se disent en privé, mais qui ne sont pas répétées par la classe politique. On dit également que le Mossad aurait fomenté les dernières manifestations en Israël. Donc, il y a même des excuses qui sont présentées à la Corée du Sud, parce qu'on découvre que les Américains, entre guillemets, font de l'espionnage aussi, surveillent leurs ennemis, mais également leurs amis. Alors, tout ça est intéressant. Donc, avec Jean-François, on va pouvoir le regarder tantôt plus en détail. Et il y a également encore une tuerie de masse aux États-Unis. Semble-t-il que c'est quelqu'un qui est un ancien employé, en fait des collègues de travail. Il est rentré dans une banque à Louisville, Kentucky, puis a ouvert le feu. Depuis le début de l'année, on ne s'entend pas là, sur la définition de tuerie de masse, mais c'est 130 événements depuis le début de l'année où vous avez des gens qui ont été blessés ou tués par balle dans des écoles, dans des centres commerciaux, dans des églises. Dans une banque, comme on a pu voir au cours de la journée de lundi.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
L'essentiel de Paul Arcan.
On fait le point sur les effets du verglas, des pannes d'électricité. Selon les chiffres d'Hydro-Québec ce matin, c'est un peu plus de 13 000 clients qui sont toujours en attente d'électricité. Et environ autour de 10 000 pour ce qui est de l'île de Montréal. Donc on en parle avec le ministre responsable de Hydro, de l'économie, de l'énergie puis de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon. Monsieur Fitzgibbon, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Donc, le bilan, là, encore ce matin, il y a 13 000 clients qui ne seront pas branchés. D'abord, selon les discussions que vous avez avec Hydro-Québec, est-ce que ces gens-là vont tous être branchés aujourd'hui ou s'il y en a qui devront attendre là, jusqu'à demain et après-demain?
Ben, Hydro-Québec, je l'ai répété tantôt, espère pouvoir avoir tout le monde reconnecté aujourd'hui. Il est possible, là, dans la chirurgie, à certains endroits, c'est peut-être plus compliqué un petit peu. C'est pas un manque d'équipement, c'est simplement qu'il y a beaucoup de travaux à faire parce qu'il y a eu des débris plus importants. Mais l'intention, évidemment, c'est de connecter aujourd'hui le plus possible.
OK. On a vu le déploiement des équipes depuis mercredi et jeudi, à 16 heures comme quart de travail par jour. Il y a des équipes de l'Ontario. Beaucoup d'auditeurs se disent, compte tenu de toutes ces petites pannes qu'il y avait sur l'ensemble du territoire, est-ce qu'on est allé chercher le maximum des travailleurs disponibles?
Bah, c'est une question qui était très légitime. Je l'ai posée moi-même à plusieurs reprises. Et je vous dirais que, quand parlant à Régis et parlant à M. Maxime, depuis le début, Hydro-Québec dit ils sont passés de 1400 à 1580, qui est un maximum à un moment donné parce qu'on devient inefficace. On parlait beaucoup de chirurgie dans certains lieux. Alors, les bris ne permettaient pas nécessairement d'avoir une augmentation massive parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont offert de participer. Mais je pense qu'à 1500 personnes, donc divisé par deux nombre d'équipes, 700 à 800 équipes, pour Hydro-Québec, c'était selon eux la gestion optimale de ce que nous avions à faire.
Est-ce qu'il y avait des équipes de Nouvelle-Angleterre?
Non, à notre connaissance, il y avait des équipes, mais beaucoup de camions immatriculés du Nouveau-Brunswick.
Ontario aussi.
Ontario un peu, mais le Nouveau-Brunswick, c'est des gens indépendants qui font de Gagnon, par exemple, qui font du travail pour Hydro-Québec. Donc, Hydro-Québec a greffé à son équipe à peu près 10%, je pense, des gens de l'extérieur qui avaient une connaissance du terrain, une connaissance aussi comment Hydro-Québec fonctionne. Faut pas oublier quand t'as des gens sur le terrain, faut les coordonner. Hein. Alors, je pense que, moi, je crois qu'Hydro-Québec a fait la bonne chose en ayant avec un nombre comme ils ont. 1600 personnes, c'est quand même beaucoup de personnes sur le terrain.
OK, mais il y a beaucoup d'auditeurs auditeurs, là je pense aux gens de l'ouest de l'île entre autres, là, qui m'écrivent nombreux, qui se disent on était dans le noir, les camions ont pas été présents avant 2 ou 3 jours. Et, eux se disent, pas qu'ils ont été négligés ou abandonnés, là, mais qu'on aurait pu faire mieux.
Ben écoutez, c'est une question de gestion des priorités aussi, hein, des codes de priorité. Aujourd'hui, je pense qu'il y a 99,3% de l'Ouest qui est rebranché, alors c'est 97% à Montréal. Donc c'est clair, je peux dire que Hydro-Québec n'a pas sciemment préféré des territoires à d'autres, au contraire. Mais aujourd'hui, on est rendu pas mal à la même place. Là. Je pense qu'il y avait clairement les priorités de 0 à 6. Là. Donc Hydro-Québec déployait dans les régions où il y avait des priorités. Puis,
en parlant de priorités, comment ça se fait que des résidences pour personnes âgées sont encore privés d'électricité ce matin, que ça a pris 2 ou 3 jours. Des gens là qui sont à mobilité restreinte puis où il n'y a pas d'électricité, ils sont hyper dépendants.
Oui, il y a une problématique d'enregistrement. Faut comprendre que Hydro-Québec a un cadre très rigide pour mettre des priorités. Je pense que c'est des 0 à 7, 0 à 6. Et les RPA, entre autres, sont généralement des réseaux 3, priorité 3. Un est un aqueduc, les services sociaux, les hôpitaux. Et il y a eu quelques occasions où les RPA n'étaient pas enregistrés comme tels, comme un RPA au niveau d'Hydro-Québec. Parce que Hydro-Québec, quand il y avait un 3 RPA, à faire le travail. Donc, il y a eu des situations où les édifices changent de vocation, par exemple. Donc, faut faire un meilleur travail pour ça, je pense, puis Hydro-Québec te reconnaît. C'est en partie Hydro-Québec, c'est en partie aussi les RPA, de bien s'enregistrer au niveau de...
Mais c'est ça ma question, qui est responsable de l'enregistrement?
Généralement, c'est le RPA. C'est l'édifice qui doit donner sa vocation. Donc, nous sommes une RPA, donc techniquement, sur Hydro-Québec, ça a une priorisation différente de milieu résidentiel. Donc, faut améliorer ça, parce qu'effectivement, c'est pas jojo de voir des RPA pas connectés, là, évidemment, dans une situation où, heureusement, c'est pas si froid que ça, là, mais c'était froid quand même jeudi, vendredi. Donc, faut corriger ça.
On va prendre un pas de recul, puis on fait le tour de Montréal. Les parcs, par exemple, Outremont, les endroits où il y a des arbres matures qui ont été, disons, qui sont tombés, là, on parle de 500 arbres facilement à Montréal. Est-ce que là, Hydro-Québec l'a reconnu là, que le travail de prévention, de contrôle de la végétation a été, disons, pas exemplaire dans les dernières années, puis que là, on a plus d'argent. La vérificatrice nous dit, il y a 2 fois plus de pannes, puis ça dure grosso modo 2 fois plus longtemps. Est-ce que Hydro-Québec n'a pas entre les mains un réseau qui est fragile actuellement?
Ben, je pense c'est une question évidemment pertinente aujourd'hui. Premièrement, parlons des équipements. Ça, c'est important, je pense. Moi, 98, j'étais là, comme vous, probablement. 98, on parlait des problèmes d'équipement. Les pylônes tombaient, il y avait des problèmes d'infrastructure. Aujourd'hui, on doit reconnaître qu'il n'y a eu aucun bris d'équipement dans le réseau. Autant les lignes de transmission qui parlent de James, de Labrador, les barrages, les fermes éoliennes, même les transfaux, il n'y a pas eu de problème d'équipement. Il y a eu problème de contrôle de la végétation. Bon point. Deuxièmement, effectivement, Hydro-Québec a quand même augmenté ses budgets malgré le rapport de la VGQ. Je pense que le chiffre, c'est de 60 à 120 millions. Donc, c'est quoi cet argent-là? Ça, c'est l'élagage, l'émondage. Alors, c'est clair que Hydro-Québec en a fait plus. Maintenant, à la lumière de ce qui s'est passé, est-ce qu'il devrait faire encore plus? La réponse, c'est oui, puis ils le reconnaissent. Sauf, faut pas oublier que beaucoup de ce qui s'est produit, ce sont des arbres qui ont tombé, ce sont des branches de 15 cm, et ça, on élague pas ça. Donc, il y a 2 enjeux. Je pense qu'il faut faire un meilleur travail d'élagage, et Hydro-Québec a augmenté son travail, va continuer, mais deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait avec les arbres qui sont dangereux? Bon, le gouvernement a permis à Hydro-Québec depuis 1 an de dire, dans certains cas, cet arbre-là est dangereux, même s'il est plus loin que la distance minimale de la ligne électrique, on coupe l'arbre. Avant, on ne peut pas faire ça. Le propriétaire du terrain avait à décider, ou la ville. Donc, je pense qu'il y a eu des améliorations, mais c'est clair. Il faut faire attention. Puis, je parlais ce matin, on va regarder la prévention. Il faut être capable d'avoir des arbres qui sont compatibles avec le réseau électrique. Il faut voir aussi être plus audacieux sur la coupe d'arbres qui sont problématiques de par leur nature. Puis l'enfouissement aussi, on en parle un peu.
Mais ça, on va en parler tantôt, mais je reviens aux arbres. Il y a beaucoup de propriétaires, moi, qui m'écrivent, là, puis qui se battent avec leur ville, avec leur arrondissement, pour obtenir la permission de couper un arbre qu'ils considèrent à risque. Outremont, par exemple, il y a un monsieur qui me dit, l'arbre que je voulais faire couper puis que la ville refuse, Il est tombé sur ma maison, là.
Et je pense que la législation pourrait jouer un rôle. Encore une fois, M. Charrette, mon collègue, a permis à Hydro-Québec de couper des arbres qu'eux jugent problématiques ou dangereux. Je pense qu'il faut aller plus loin là-dedans. C'est important de le faire. Évidemment, il faut faire attention. On va pas couper tous nos arbres, surtout pas à Montréal. Mais faut y aller avec ça, parce que c'est pas juste de l'émondage, là. C'est pas juste les branches près du fil. C'est tous les arbres qui sont à peu près à 20, 30 mètres, qui ont une hauteur importante. Je pense qu'il faut laisser à Hydro-Québec plus de pouvoir de trouver sur le territoire quels sont les arbres qu'il faut couper parce qu'il va y avoir malheureusement d'autres situations comme ça qu'on a vécu jeudi.
Bon, la question de l'enfouissement. J'ai encore des élus municipaux là qui disent, ben là, dès qu'il y a un nouveau quartier, il faut que ça soit enfoui. Le premier ministre a dit que ça coûte 100 milliards. Est-ce que c'est irréaliste de penser qu'on pourrait avoir une stratégie, peut-être pas à 100%, là, mais d'enfouissement des fils électriques au Québec?
Ben, je pense que on doit regarder ça de plus près. Effectivement, ma réaction était celle de notre premier ministre, de dire 100 milliards, est-ce qu'on a un programme pour tout enfouir? C'est pas raisonnable de penser qu'on pourrait faire ça dans le contexte où, économiquement, il faut avoir quelqu'un paye pour. Par contre, faut vous regarder aujourd'hui, il y a 10% du réseau de Hydro-Québec qui est enfoui, puis à Montréal, je pense, c'est pas loin de 50%. Donc, il y a du travail qui est fait de ce sens-là. C'est clair que pour des nouvelles constructions, on doit considérer l'enfouissement par rapport au réseau aérien. Mais il faut quand même se préoccuper de comment on va payer ça et qui va payer ça. Pour donner un exemple, on parle beaucoup des chiffres, là. Un kilomètre aérien coûte 100 000 $ à peu près. Le même kilomètre enfoui, quand on considère tout le réseau souterrain des transformateurs et ainsi de suite, c'est 3 millions. Donc, c'est pharaonique comme différence. Par contre, est-ce que on peut justifier pour un RPA, pour un hôpital, on devrait avoir ça? Probablement, mais il va falloir aussi accepter comme société, il va falloir payer pour. Alors, soit les taxes municipales vont augmenter, soit que nos impôts vont augmenter ou il va y avoir moins de services. Alors, c'est une question de société, puis je pense que la réponse n'est probablement pas les deux extrêmes. On peut pas ne rien faire. Mais de tout enfouir n'est pas raisonnable. Je pense qu'il faut y aller étape par étape. Il ne faut pas oublier, ce sont les promoteurs et les villes aussi qui ont autorité. Dans l'Hydro-Québec, n'a pas d'autorité dans l'enfouissement. Mais je pense qu'on a pris conscience qu'il va falloir regarder ça comme il faut, puis évaluer qui va payer pour. Il y a peut-être des situations où on va vouloir augmenter les taxes. On va vouloir que les utilisateurs payent plus cher parce qu'il va y avoir une sécurité énergétique qui devient de plus en plus importante.
Et on peut penser à des secteurs, disons, où il y a plus d'arbres qu'ailleurs, où ça devient là pas juste l'enjeu d'une maison, mais d'un quartier au complet.
Oui, c'est ça. Puis il faut aussi être raisonnable. Au niveau rural, par exemple, moi j'avais une résidence secondaire, un chalet, un dans la ville de Sutton, puis un moment donné, Hydro-Québec est venu, puis on dit, ben, cet arbre-là, coupe ça, c'est dangereux, je les ai coupés. C'est plus intelligent de faire ça. J'ai perdu 3 arbres sur 500 que d'enfouir mes fils, puis ça coûte 20 000 $. Je pense qu'il faut être raisonnable. Je pense que le milieu urbain requiert beaucoup d'allées. Je pense que Mme Plante l'a dit ce matin, là, il y a une prise de conscience qu'il faut avoir. Il n'y a pas des moyens extraordinaires, mais il faut aussi penser à... Je pense qu'il va y avoir d'autres pannes. Je pense que penser qu'il n'y aura pas de pannes, c'est irréaliste. Comment est-ce qu'on peut se prémunir contre des pannes? Peut-être que les batteries multidirectionnelles vont devenir importantes. Savoir que...
Mais là, on a tous eu le réflexe en fin de semaine de dire si on était 100% de chars électriques, il n'y a pas grand monde qui avancerait. Là.
Sauf que là, on parle de beaucoup de bornes à très haute recharge qui vont être dans des places où on va pouvoir se connecter quand même. Mais je pense que les batteries, je pense que c'est important de considérer aussi qu'il va devoir y avoir un changement. On a parlé beaucoup d'efficacité énergétique. Le Québec a sorti un rapport il y a 2 semaines, le changement. Alors, je pense qu'il va falloir réfléchir. Oui, il y a l'enfouissement. Oui, il y a l'élagage, couper les arbres. Mais aussi comment est-ce qu'on consomme, mais peut-être comment est-ce qu'on va se prémunir peut-être d'avoir des batteries de recharge dans les cas extrêmes pour les services essentiels.
L'autre chose, vous avez parlé de Montréal, et on a vu ce reportage de Radio-Canada sur la difficulté de recruter des travailleurs d'Hydro-Québec et de conserver à Montréal des travailleurs d'Hydro-Québec. Moi, j'ai jasé avec une couple de monteurs en fin de semaine, puis c'est des gens qui se disent, tant qu'il n'y aura pas de primes, pas vrai qu'on va venir à Montréal, ils habitent tout en banlieue, ça coûte moins cher, puis ils trouvent ça complexe, Montréal. Est-ce que d'abord, c'est un problème d'attirer pour Hydro-Québec des travailleurs ici en ville?
Ben, premièrement, je pense que c'est une passée. Beaucoup de gens ont parlé de ça, puis j'ai posé des questions aussi. Il y a beaucoup d'employés d'Hydro-Québec qui demeurent maintenant en banlieue. Mais ils travaillent à Montréal, pareil. On peut partir de Montréal et rester à Blainville, puis s'il y a un problème à Montréal, on s'en vient à Montréal. Donc, je pense que la gestion de la crise, même pour Montréal, ce serait faux de dire que le manque de travailleurs à Montréal a fait que Montréal a été plus affecté que d'autres. Par contre, il y a une question logistique, c'est clair. Alors, moi, je pense que oui, il y a beaucoup de gens qui veulent rester en banlieue, on ne peut pas les blâmer nécessairement, mais je pense que pour Hydro-Québec, la gestion sur le terrain...
Mais avant, on donnait des primes pour aller en région. Est-ce qu'on va donner des primes pour être à Montréal?
Écoutez, je suis pas rentré dans ce détail-là avec Hydro-Québec, mais c'est sûr que la main-d'œuvre est un enjeu, puis c'est sûr qu'il va falloir s'assurer que si on n'est pas avoir d'autres bris comme ça dans le futur, d'être capable de remédier le plus rapidement possible. Alors, j'ai pas la réponse à votre question, mais je peux vous dire que sur le terrain, depuis 4 jours, il n'y a pas eu de pénalisation pour Montréal à cause de ça, parce que les gens sont venus. Okay. On a vu des gens partir de Windsor, partir avec le camion, s'en aller à Montréal.
Dites-moi, le conseil d'administration n'a pas encore trouvé la perle rare pour remplacer Mme Brochu.
Effectivement, il y a plusieurs très bons candidats, candidates. Alors, je pense que c'est important de... C'est probablement la nomination la plus importante que le gouvernement va faire durant le mandat, son mandat. Alors, je pense que c'est important de prendre notre temps. Hydro-Québec est très bien dirigé. M. Départ est en continuité. L'équipe d'Hydro-Québec est là, motivée. Alors, je pense qu'on va prendre le temps qu'il faut.
Mais ça veut dire d'ici l'été ou...
Moi, je pense que ça va être d'ici un mois, et demi. Mais là, je spécule. Là, mais il y a beaucoup de bons candidats. Ça, c'est pas parce qu'il y a personne qui veut... Le travail, c'est qu'il faut juste choisir la bonne personne. Les circonstances, on parle de prévention, on parle d'énergie renouvelable, on voit ce qui se passe dans le monde.
Pour reprendre l'expression consacrée, un ou une Top Gun.
mon ami Christian Dubé dirait ça, oui.
Monsieur Fitzgibbon, merci d'être venu ce matin. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Alors, est-ce que tous les clients d'Hydro-Québec qui n'ont pas encore l'électricité vont retrouver le courant d'ici la fin de la journée? On le souhaite, mais c'est pas garanti, en tout cas dans certains coins. L'autre chose qu'il faut noter, c'est qu'encore ce matin, des centaines et des centaines d'équipes sont déployées. Et c'est l'occasion aussi, je crois, de souligner le travail qui a été fait par ces équipes d'Hydro-Québec, des quarts de travail de 16 heures depuis jeudi dernier. Et pour en parler, Yannick Veilleux est avec nous, chef travaux chez Hydro-Québec. Monsieur Veilleux, bonjour.
Bonjour, M. Arquin.
Parlez-moi un peu de ces dernières journées pour vous. À combien d'heures par jour, puis qu'est-ce que vous avez fait?
Ben, comme je dis, là, oui, les monteurs, les jointeurs, puis l'ensemble des travailleurs font des très bonnes journées, des 16 heures par jour. Ce qu'on trouve là en chantier, là, par contre, là, c'est du fil à terre, c'est des travaux qui sont assez majeurs, qui sont en arrière-l'eau, non accessibles, ce qui rend un peu plus difficile là, le travail des travailleurs. On doit monter à l'éperon, ça veut dire pas de nacelle. Chapeau aux travailleurs, pour vrai. On met en place aussi l'environnement de travail qui soit sécuritaire pour tous. Il y a beaucoup de démontages à faire. C'est des grosses heures de travail qu'on fait à chaque jour.
OK. Donnez-moi des exemples, là, parce que nous, on a l'impression, on dit, bon, ben la branche a accroché le fil ou le transfo a sauté. C'est pas si long que ça à réparer. Donnez-moi des exemples où c'est plus complexe.
Juste hier soir, on était à Saint-Lazare, arrière-haut, petit quartier résidentiel, 7 clients touchés par une panne de courant. On arrive sur place, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a 3 portées à terre, des arbres sur le réseau, la moyenne tension au sol, les branchements des clients au sol. Il faut dégager, enlever la végétation, se préparer à reconstruire. On constate sur place, il y a un transfo à changer. On constate qu'il y a un poteau également à changer. Inaccessible, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de logistique à prévoir, fait que c'est extrêmement long pour raccorder 7 clients. Fait que les gens travaillent extrêmement fort. Le résultat, il est positif pour les clients sur place. Mais une fois qu'on a terminé, on passe au suivant, mais on en a encore de gros travaux de végétation à faire en enlevant les arbres, les branches. Le verglas a affecté les arbres dans ce coin de région-là, là, assez important.
OK, mais est-ce que ça veut dire, je sais pas, là, c'est une question que je vous pose, quelqu'un passe, évalue en disant c'est 7 abonnés, ça va prendre tant d'heures, on est mieux d'aller plus loin pour rebrancher plus vite plus de monde?
Cette analyse-là, où elle a été faite? Elle a été faite là, dès le début de la tempête. On a des dépisteurs qu'on appelle l'IPART. Ils vont voir c'est quoi l'ampleur des dégâts au fur et à mesure que les journées avancent. Quand on se déplace sur des pannes comme celle qu'on a vue hier, on arrive là. Oui, c'était dépisté. Oui, on arrive prêt pour déboiser, mais on arrive indépendamment à l'heure qu'on arrive aussi. On prend l'exemple d'hier soir. On est arrivé hier à 3h l'après-midi. On était rendu à ce cas-là, ce qu'on a fait, mais on a pris le temps hier de tout déboiser, à regarder qu'est-ce qu'il nous prenait comme matériel, puis de se mettre prête. Un matin, on est capable de faire feu dès 7h. Les équipes sont là en train de remonter le fil, fait qu'on de remettre sous tension le plus rapidement possible pour aller à la prochaine qui va nous attendre tantôt.
OK. Je sais pas si vous pouvez me l'expliquer, mais il y a beaucoup d'auditeurs qui me disent ils se sont fait rebrancher, par exemple, vendredi ou samedi, en tout cas durant la fin de semaine, puis après 10 minutes, oups, le courant repartait, ça reprenait une couple d'heures. Pourquoi, une fois branché, ça débarque?
Faut comprendre qu'au début de la tempête, les températures étaient plus froides que là. On a eu du beau temps, là, puis il y a un peu plus de chaleur. C'est que les résidences aussi, quand on les remet sous tension, la charge, on demande aux gens de réduire leur consommation. Ce que ça nous permet de faire, bien, c'est de passer à une autre panne. Mais si on le fait pas, c'est que les charges sont tellement élevées que le fil fond. Fait que tout ce qu'on a fait en amont, ben il faut tout le refaire, le reconstruire. Fait que c'est important d'expliquer aux clients sur place que souvent, quand il y a toute la charge reprend en même temps, ben le travail qu'on a fait, ben on est obligé de le recommencer. Fait que c'est un peu ça aussi qu'on essaie de conscientiser les clients, puis je pense qu'ils sont très collaborateurs là-dedans, là, une fois qu'on les a conscientisés.
Monsieur Veilleux, d'abord, bravo à vous, bravo à toutes vos équipes. Ça a mérité d'être souligné parce que c'est pas pour vous autres, puis il y a ben de vos employés qui n'ont pas d'électricité, puis qu'eux aussi aimeraient bien s'en avoir, puis ça fait des longues journées de travail. Félicitations, bravo à vous.
Ben un gros merci, puis j'en profite pour souligner pour vrai le travail de tout le monde. Il y a les monteurs, les jointeurs, il y a des techniciens, il y a des planteurs, tout le monde pour vrai, chapeau. Tout le monde a mis sa vie personnelle sur pause, puis le but premier, c'est de raccorder le dernier client, puis on espère le faire bientôt. Fait que merci, puis chapeau à tout le monde, M. Urquin.
M. Veilleux, merci d'avoir été avec nous.
Merci,
au revoir. Yannick Veilleux est chef des travaux chez Hydro-Québec. Alors, le bilan, si on résume ce matin, ça veut dire donc autour de 13 000, un peu plus, là, clients qui sont pas branchés. Et il y a des cas où c'est, vous le voyez, plus complexe pour peu d'abonnés. Mais je rappelle qu'il y a encore des résidences pour personnes âgées qui ne sont pas branchées. Que ça, c'est un peu plus fatigant parce que ce sont des gens vulnérables. Puis des gens, là, puis je donnais l'exemple ce matin dans un CHSLD où la personne a besoin d'un appareil pour se déplacer, sortir de son lit. Puis quand il n'y a pas d'électricité, l'appareil marche pas, là. Il n'y a pas de génératrice ou la génératrice est pour usage limité. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens, là. Je comprends que c'est peut-être la responsabilité des propriétaires de RPA d'inscrire dans le registre d'Hydro-Québec, là. Mais avec la fragilité, quand même, de ce réseau, faudrait prioriser les bonnes personnes au bon moment. Ce qui se fait de façon générale, mais c'est clair qu'en fin de semaine, là, il y a plusieurs cas d'exception pour ce qui est de ces résidents.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
L'essentiel de Paul Arcand.
Lundi de Pâques, 6h30, pendant que le Québec, évidemment, profite de ce long congé, le premier ministre François Legault envoie un gazouillis pour partager une chronique de Mathieu Boccoté du Journal de Montréal, où M. Legault dit que le catholicisme a aussi engendré chez nous une culture de la solidarité qui nous distingue à l'échelle continentale. Reprenant les propos de Mathieu Boccoté, aussitôt s'en est suivi évidemment une envolée de messages sur Twitter en disant que c'est le gouvernement de la laïcité qui tombe dans le catholicisme. M. Legault répliquait un peu plus tard en disant « il faut distinguer le patrimoine ». Alors, c'est un débat là, drôlement parti sur Twitter sur la place de l'Église catholique dans l'histoire du Québec. Éric Bédard est avec nous, historien, auteur et professeur à l'Université TELUC. M. Bédard, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand.
D'abord, on peut pas faire un débat comme ça nuancé sur Twitter. c'est le premier constat qu'on peut faire. Mais qu'est-ce qu'on peut dire là sur l'Église catholique et ce qu'on appelle la culture de la solidarité? Est-ce qu'on fait un lien entre les deux ou pas?
Ben, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut distinguer peut-être, faut savoir de quoi on parle. C'est sûr qu'il y a un fond éthique, il y a un fond de valeurs qui nous ont été transmis par la culture, disons, catholique ou chrétienne, mais bon, on pourrait inclure aussi, c'est pas seulement catholique, c'est aussi tous les chrétiens qui avaient ces valeurs, ce fond éthique, c'est-à-dire que penser à son prochain, avoir le souci des pauvres, la figure du Christ est incarnée par le pauvre qui vient vers nous. Moi, j'avais une grand-mère qui avait, mais c'était pas juste elle, tout, bien des gens avaient ce qu'on appelait le banc de quêteux pour accueillir l'itinérant de passage, le vagabond, le survenant. Alors, on devait l'accueillir, lui donner une soupe, ce fond-là a inspiré au plan personnel éthique beaucoup de gens, de religieuses notamment, je pense à Marguerite Diouville, je pense à Émilie Gamelin, Marie-Gérin Lajoie et plein d'autres, des femmes, des hommes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour nous soigner, nous éduquer. Par contre, si on distingue ce fonds éthique, ce fonds de valeur, avec le rôle de l'État, c'est pour ça qu'il y a une confusion peut-être, c'est qu'il faut, il faut distinguer ce fonds de valeur qui nous a été légué et qui, je pense, peut-être, oui, a eu de l'influence sur le long terme, de l'État. Parce que l'Église, comme institution, s'est méfiée de l'État de façon très importante jusqu'à la fin du 19e siècle. Hein. L'État, c'était les socialistes, l'État, c'était les gens qui étaient athées, qui voulaient la séparation de l'Église et de l'État, c'était les républicains français. Et donc, c'est vraiment tout graduellement que l'Église va se dire non, finalement, l'État est important, peut jouer un rôle pour redistribuer la richesse, mais ça va être très, très graduel et toujours un peu dans une forme de méfiance. Et au cours du 20e siècle, l'Église va développer une sorte de troisième voie dans son rapport à l'État, entre des gens très libéraux qui disent non, l'État n'a rien à voir, rien à jouer dans le social et l'économique, et évidemment toute une gauche socialiste qui disait que l'État doit jouer un rôle très important. Donc l'Église va essayer de trouver une troisième voie, mais va mettre beaucoup de temps, et ça explique aussi pourquoi l'Église a vu d'un œil positif, par exemple, le mouvement coopératif qui s'est mis en place pour les pêcheurs, pour dans le domaine financier, le mouvement des jardins. Mais durant les années 50, au Québec, l'État, je veux dire, l'Église a beaucoup de responsabilités sociales, mais ça craque de partout. Ils n'ont plus les moyens de s'occuper de leur mission sociale. Ils se tournent un peu vers l'État, justement. Mais on a un gouvernement, Maurice Duplessis, durant les années 50, qui est plutôt réfractaire au rôle de l'État dans le domaine social. S'en remet avec une philosophie bien libérale, s'en remet à la société civile, donc à l'Église. Et donc, il faudra attendre un peu plus longtemps que les autres, avant d'avoir un État, providence, proprement dit.
Mais M. Bédard, on a l'impression là qu'un jour, les Québécois ont dit, bon, ben là, ça suffit l'Église, l'État va assumer son rôle, là, je parle évidemment de la Révolution tranquille, et que depuis ce temps, on a une réaction encore plus à fleur de peau dès qu'on parle de la religion, du catholicisme, et surtout quand un premier ministre nous parle de ça, on se dit, hey, on a fait un virage, on est ailleurs, on n'est plus là, là.
Absolument, oui, je pense qu'on s'entend là-dessus, et la laïcité s'inscrit dans cette perspective-là d'une société qui s'est sécularisée, où on ne s'en remet plus à une seule église pour voir aux enjeux sociaux. Ça, c'est certain que le Québec a opéré ce virage avec aussi un fond d'amertume. Hein. On a des griefs à l'égard de l'Église qui exerçait une forme de censure, qui exerçait aussi des pressions au point de vue des valeurs, qui pouvait ostraciser des gens lorsque les gens n'adhéraient pas à ces perspectives. Et c'est à une église, hein, c'est à une église omnipotente, omnisciente que les Québécois ont tourné le dos. Mais le fond de valeur chrétienne qui nous vient de très loin, ça, probablement que ça s'est mué en autre chose, ça s'est transformé, ça a pris, évidemment, c'est l'État qui a pu jouer ce rôle de solidarité pour les plus démunis. Mais je pense que c'est là la confusion. C'est le rôle de l'État versus le fond éthique, les valeurs transmises par des générations qui nous ont inspiré un sens de l'autre, d'ouverture aux plus démunis. Alors, c'est peut-être de là que vient la confusion. Mais en effet, c'est vrai, le Québec, la Révolution tranquille, mais ça s'est fait très graduellement. Hein. Et d'ailleurs, plusieurs disent que si la Révolution a été tranquille, c'est parce que l'Église elle-même se transformait de l'intérieur, parce qu'elle-même n'avait plus les moyens d'assurer tous ses services sociaux, parce qu'elle-même voulait donner une plus grande place aux laïcs. Et donc, si vous regardez, dans les années 60, il n'y a pas eu d'opposition très vive de l'Église à vendre ses collèges, ses anciens collèges classiques ou à se départir de ses institutions même de santé. Ça s'est fait très, très graduellement, mais en effet, sur un fond d'amertume, chez plusieurs en tout cas, qui s'est prolongé jusqu'à nous, bien sûr.
Monsieur Bédard, merci beaucoup. Éric Bédard est historien, auteur et professeur à l'Université TELU.
L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, on va parler de plein de sujets sur la scène internationale avec en toile de fond la fuite de ces documents confidentiels du Pentagone. Et on sait que depuis déjà plusieurs semaines, il y a des médias, des experts qui parlent peut-être d'un renversement de situation concernant la contre-offensive que prépare l'Ukraine contre les Russes. Jean-François Lépine est avec nous ce matin. Bonjour Jean-François.
Bonjour Paul.
Alors, est-ce que ces fuites, ces nouveaux documents le remettent en question l'hypothèse d'une contre-offensive efficace de l'Ukraine?
Ben oui, différents points de vue, mais d'abord, Paul, je vais te décrire un peu est-ce qu'il y a vraiment une contre-offensive? Qu'est-ce qu'on en sait avant même ces documents-là? D'abord, c'est qu'il y a en Ukraine, je pense qu'on le sait pas beaucoup actuellement, une mobilisation importante pour trouver, pour augmenter les forces qui ont été décimées par les combats depuis le début de l'offensive russe. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les hommes de 18 à 60 ans ont été retenus, hein, pouvaient pas quitter le pays. Mais maintenant, on les incite à joindre les rangs de l'armée et on s'attend bientôt à une mobilisation forcée. Donc, on va appeler ces gens-là au combat. L'armée ukrainienne, Paul, avait 260 000 soldats environ avant le début de l'offensive russe. Ils en auraient perdu 120 000 depuis le début. Ça, c'est les évaluations de la plupart des observateurs et des pays qui surveillent la scène en Ukraine. Donc, pour faire cette offensive-là, on a besoin de nouveaux effectifs. L'Ukraine serait en train de constituer 8 brigades de combat. Ça, c'est environ 40 000 personnes soldats, là, hommes soldats. Au sein de ce qu'on appelle la garde offensive, une partie de ces effectifs-là est formée en Europe par les États-Unis, par l'OTAN, pour utiliser éventuellement, on en parle beaucoup là dans le cadre de cette offensive-là, les chars modernes comme les Léopards allemands qui ont été fournis à l'Ukraine, des nouveaux systèmes de défense antiaérienne, des blindés. L'Ukraine est aussi, ça c'est intéressant, en train de reconstituer le fameux bataillon d'Azov. Ça, on en a parlé là à l'époque, au début de l'offensive russe, à l'époque de la bataille invraisemblable de la ville de Mariupol. C'est un bataillon essentiellement constitué de volontaires et qui serait en train de se recréer. On parle de 5000 hommes de ce côté-là aussi. Le défi dans tout ça, et c'est ce que les documents vont nous révéler, là, nous ont révélé la semaine dernière, c'est de former toutes ces recrues, de les équiper, d'assurer le moral des troupes et surtout la discipline quand on recrute des gens la dernière minute comme ça. On dit que plus de 250 000 Ukrainiens auront 18 ans cette année. 18 ans, c'est l'âge minimum pour entrer dans l'armée. Ben, tous ces gens-là, ces jeunes-là, ont vu les images et lu les récits de ce qui se passe au front. C'est sûr que la mobilisation forcée est vue pour eux avec beaucoup de crainte. Il y aura un défi de motivation de tout ça.
Bon, ben justement, avec ces documents du Pentagone classés ultra secrets qui sont maintenant donc publics, qu'est-ce que ça change là pour l'opération en Ukraine?
Alors, une des révélations très importantes de ces documents-là, c'est que la défense aérienne de l'Ukraine, qui avait relativement bien tenu depuis le début de l'invasion, pour protéger la population, mais aussi protéger les militaires au combat. Si des avions de chasse attaquent des militaires au combat et qu'on peut pas empêcher ces avions-là de survoler le territoire ukrainien, c'est catastrophique pour l'armée ukrainienne. Ben, on dit donc, ces documents-là montrent que la défense aérienne de l'Ukraine n'aurait plus de munitions ou de missiles à sa disposition d'ici la fin avril, donc la fin de ce mois-ci et le début mai. Jusqu'à maintenant, l'Ukraine utilisait des fameux systèmes hérités de l'ancien régime, là, des systèmes soviétiques S-300 pour 80% de leur défense aérienne, mais ces systèmes-là auraient tous été utilisés, en tout cas les munitions, les missiles. Même chose pour des équipements plus sophistiqués fournis par les alliés. Donc, il y a un enjeu là de renouveler la défense aérienne, parce que si on le fait pas, encore une fois, toute offensive qui pourrait être planifiée serait voie à la catastrophe. Un petit exemple, encore une fois, la Russie a, sur le terrain des opérations là, autour et en Ukraine, environ 450 avions de chasse. L'Ukraine en a 85. Ce serait un carnage pour les troupes ukrainiennes au sol si les avions de chasse de la Russie pouvaient se bouger sur le territoire ukrainien sans vraiment être menacé par une défense antiaérienne. D'ailleurs, le président Zelensky a réitéré en fin de semaine que l'Ukraine ne pouvait passer à l'offensive sans un soutien militaire additionnel de l'Ouest. C'est toujours ce qu'il répète. Et puis, il vient d'annoncer d'ailleurs que l'Ukraine va revoir sa stratégie en fonction des révélations dont on apprend l'existence depuis jeudi dernier, là, que ces documents-là ont commencé à circuler sur les médias sociaux. Donc, c'est un vrai défi qui est révélé par ces fuites-là. On dit par contre dans ces documents-là qu'il y aurait 12 brigades de combat, donc 60 000 soldats qui seraient préparés pour la nouvelle offensive, dont 9 de ces brigades seraient équipées de 250 chars d'assaut et 350 blindés, principalement par les alliés de l'Ouest, donc les alliés de l'OTAN. Alors, c'est un portrait. Et puis, d'ailleurs, il faut pas oublier que encore la semaine dernière, Washington a promis une nouvelle aide de 2,5 milliards de dollars pour, justement, des systèmes d'interception aérienne et de munitions. Encore une fois, on voit à quel point le support étranger va être important, au point où, à la suite de la fuite de ces documents-là, le gouvernement ukrainien dit, ben nous, on va peut-être remettre en question cette offensive-là.
Au-delà du dossier ukrainien, qu'est-ce que ces documents donc nous apprennent sur les États-Unis, leurs alliés, puis aussi leurs ennemis?
Alors, c'est vraiment inquiétant et intéressant à la fois. On parle d'une centaine de documents là qui proviennent du Pentagone en grande partie, qui portent sur l'évaluation quotidienne que le Pentagone fait ou faisait de la stratégie russe depuis le début de l'invasion, mais aussi des stratégies de l'Ukraine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous révèle beaucoup sur l'espionnage américain de ce qui se passe en Russie, mais aussi de ses alliés, comme l'Ukraine, on parle même d'Israël et de la Corée. Par exemple, des documents nous apprennent un peu ce qu'on devinait, j'en ai déjà parlé à ton émission, Paul, de pression qui s'exerce sur Séoul, sur la Corée du Sud, pour que la Corée du Sud, qui a énormément de réserves de munitions, d'obus, contribue davantage à l'aide militaire de l'Ukraine, ce que Séoul ne veut pas, surtout quand on voit à quel point la Corée du Nord devient de plus en plus agressive. Une autre révélation parmi ces documents-là a mis en furie le gouvernement du premier ministre Netanyahou en Israël, parce qu'on parle d'informations secrètes du Pentagone qui montreraient que le Mossad, hein, le fameux service d'espionnage emblématique d'Israël, aurait encouragé les manifestants israéliens dans leur campagne pour faire échouer le projet de réforme de la Cour suprême du gouvernement Netanyahou. Donc, le Mossad aurait joué contre. Alors, tout ça, c'est évidemment, on le voit dans tous les médias là, depuis hier, tous les médias américains, ça met beaucoup en cause, le Pentagone le dit, ces fuites de documents, la sécurité des États-Unis, parce que ça révèle encore une fois les tactiques d'espionnage des Américains, autant sur leurs ennemis que sur leurs alliés. On fait des rapprochements avec les fuites de WikiLeaks en 2010, mais certains disent qu'il n'y a quand même pas beaucoup de nouveautés, c'est beaucoup de choses qu'on savait, puis surtout, c'est que les documents qui sont révélés sont en fait datés de fin février, début mars. On le sait, surtout dans des zones de guerre, les choses changent extrêmement vite. Donc, ces informations, au moment où on se parle, sont peut-être déjà un peu dépassées, mais elles révèlent quand même beaucoup de choses. C'est pour ça que Washington a déclenché une enquête sur les fuites.
Et puis, en terminant, un mot sur cette opération militaire sans précédent lancée autour de Taïwan en fin de semaine. Et tout ça était en réaction avec cette rencontre entre le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, et la présidente de Taïwan aux États-Unis.
Ouais, c'est une opération militaire, c'est inouï. L'état-major des forces armées chinoises dit cette opération-là a démontré que les États-Unis ne seraient pas en mesure de défendre le territoire de Taïwan advenant une attaque de la Chine. Alors, pour la première fois dans l'histoire, c'est ça qui est important de dire, le commandement militaire de l'Est de la Chine, là, qui est la région limitrophe là, de l'autre côté de Taïwan, le commandement donc de l'Est de la Chine a réussi à encercler complètement l'île grâce à une force imposante, un porte-avions géant, le Shandong, une trentaine de navires, 91 avions de chasse qui ont effectué pour la première fois des simulations de tir sur des objectifs stratégiques sur l'île de Taïwan. La présidente, Mme Tsai Ing-wen, qui revenait des États-Unis, a dénoncé évidemment ce geste d'agression-là. Mais les Taïwanais eux-mêmes, c'est ça qui est intéressant dans cette situation-là, n'ont pas paniqué plus qu'il faut parce qu'ils sont habitués à ce genre de trucs-là. En août, l'été dernier, Les Chinois avaient mené ce genre d'opération-là pendant 5 jours. Cette fois-ci, c'était 3 jours. Après la visite à Taipei de Mme Pelosi, celle qui a précédé M. McCarthy dans ce poste de président de la Chambre des représentants. Donc, c'est un geste de provocation beaucoup plus important. Il y avait eu une opération militaire encore plus longue. Ce que ça montre, c'est la capacité de défense de Taïwan, oui, bien sûr, parce que Taïwan a pas paniqué devant cette situation-là, mais ça montre aussi à quel point les Chinois veulent intimider et veulent montrer qu'ils ont l'intention d'aller de l'avant avec toute cette question de la réunification de Taïwan avec la Chine. Tout ça se passait, Paul, en terminant rapidement, au moment où le président Macron et la présidente de l'Union européenne étaient en visite officielle en Chine. Le président Macron, qui voulait convaincre la Chine de jouer un rôle actif dans une solution en Ukraine, le président Xi Jinping ne s'est pas du tout engagé à le faire. S'est pas engagé non plus à rencontrer le président Zelensky, comme les alliés de l'Ukraine lui demandent. En fait, la France n'a pas poussé très fort pour une solution du conflit parce que les deux pays pensent, la Chine et la France, à renouer davantage leurs relations commerciales. Monsieur Macron était en France surtout pour vendre à la Chine des avions Airbus, des centrales nucléaires et de la technologie française. Et ça, c'est plus important probablement que la diplomatie aux yeux de la France.
Merci beaucoup, Jean-François. À plus tard cette semaine.
Bonne fin de journée.
Au revoir. C'était Jean-François Lépine. Bon, puisqu'on parle d'auto, et vous savez que souvent dans cette émission, on a abordé la question des vols de voitures, que ce soit en banlieue où les gens se font voler leur véhicule alors qu'il est stationné dans l'entrée de la maison. Ça se passe tous les jours, en pleine nuit, parfois même en plein jour. La presse nous dit ce matin qu'on a retrouvé 53 véhicules volés dans le port de Montréal. On sait que c'est un enjeu. On a reçu des responsables du port, de la police. Le chef, Fadi Daguerre, était avec nous. C'est Daniel Renault qui raconte l'histoire. Il est avec nous ce matin. Bonjour, Daniel.
Oui, bonjour, Paul.
Alors, quand même, 53 véhicules dans le port de Montréal, dans des conteneurs, là, ça s'ajoute à un nombre très, très élevé de véhicules volés.
Oui, exact. Et c'est 53 véhicules, Paul, dans 25 conteneurs. Ce que les policiers du SPVM de la région Est ont fait hier, c'est ce qu'ils appellent un blitz. C'est-à-dire que au cours des dernières semaines, il y a certains conteneurs qui ont été identifiés à la suite de différents moyens d'enquête ou à la suite de renseignements, qui ont été identifiés, qui ont été mis de côté. Et hier, les enquêteurs ont ouvert ces conteneurs et découvert 53 véhicules qui avaient été volés. Et Paul, récemment, vous avez eu le commandant Yannick Desmarais à votre micro qui racontait, et ça vous avait un peu surpris, que presque la moitié des véhicules qui étaient retrouvés dans le port de Montréal provenaient d'autres provinces.
Oui.
Mais en réalité, finalement, c'est beaucoup plus que ça. Parce que ce que le SPVM m'a confié hier, c'est que 76% des véhicules volés qui sont retrouvés dans le port de Montréal proviennent des autres provinces canadiennes, presque totalement, finalement, de l'Ontario. Et hier, sur les 53 véhicules qui ont été retrouvés, il y en a 36 qui provenaient des autres provinces et presque exclusivement de l'Ontario. Pourquoi? Ben parce que le port de Montréal, c'est une plaque tournante de l'exportation de ces véhicules-là vers l'Europe et vers l'Afrique, où ils sont vendus de 2 à 3 fois le prix.
Bon, est-ce qu'on sait quelles sont les organisations qui sont derrière ces vols? Je sais que le directeur Fadi Daguerre faisait l'espèce de lien entre vol de véhicules et achat d'armes à feu.
Oui, exact. En fait, il y a deux paliers. Il y a les voleurs sur la rue, qui bien souvent sont recrutés parmi les membres de gangs de rue ou des jeunes qui, hier, le commandant Monchamp m'expliquait, des jeunes, par exemple, des adolescents qui sont déplacés en Ontario pour voler des véhicules et qui se retrouvent pris, finalement, entre les griffes de ces groupes criminels-là. C'est un peu ça, d'ailleurs, qui pourrait se cacher derrière l'histoire de ces deux jeunes qui ont été torturés à Toronto. Vous avez vu probablement images. Donc, ça pourrait être une affaire de vol de voiture. Donc, il y a ce palier-là et les jeunes peuvent faire facilement jusqu'à 3 000 $ avec un seul véhicule volé et ensuite se tournent et achètent des armes à feu sur le marché noir à peu près à 5 000 $. Donc, ça peut aller très vite. Oui, Fadi Daguerre, vous l'avez dit sur vos ondes, mais hier, les deux commandants que j'ai rencontrés me l'ont confirmé. Et il y a aussi les réseaux bien organisés qui relèvent pour la plupart du crime organisé du proche Moyen-Orient à Montréal ou dans la région de Montréal, qui vont acheter ces véhicules-là et ensuite qui vont, par le biais de compagnies coquilles avec des factures factices, vont simuler des ventes de produits vers l'extérieur, vers l'Europe ou encore vers l'Afrique, et en réalité vont exporter des véhicules qui ont été volés.
Bon, maintenant, la question qui se pose, tu le disais, là, beaucoup de ces véhicules viennent de l'Ontario. J'ai vu il y a quelques semaines des commentaires de policiers de l'Ontario, de la région de Peel, là, qui disaient que ces voitures volées transitaient vers le port de Montréal. Mais s'il y a autant de véhicules volés à Montréal, ils sont où, ces véhicules-là?
Vous voulez dire ils sont cachés où?
Si on a des véhicules à 75% qui viennent des autres provinces, nos 800 véhicules volés, par exemple, par mois à Montréal, ils sont découpés, ils sont vendus par une autre filière. Est-ce qu'on sait ce qui arrive avec ces voitures-là?
Ben, ce qu'on m'expliquait hier, c'est que actuellement, vraiment, la majorité des véhicules volés sont destinés à l'exportation en raison de la rareté, de la pénurie, là, de l'offre qui est mondial depuis le début de la pandémie. Mais une autre question à se poser, Paul, parce que je vais vous répondre en vous posant une question. Est-ce que c'est pas parce que tout ce qu'on trouve, on identifie au port de Montréal, ce n'est pas seulement que la pointe de l'iceberg? Dans le fond, combien de conteneurs contenant des véhicules volés passent sans être repérés, sont embarqués sur des navires et finalement prennent le chemin des autres pays? Ça peut expliquer aussi en partie pourquoi il y a une grande différence entre le calcul que vous faites à 800 par mois, parce que c'est vrai qu'on en vole en moyenne 800 par mois à Montréal, et finalement la pointe de l'iceberg que l'on retrouve et que l'on récupère.
Bien sûr, c'est probablement un faible pourcentage. Merci beaucoup, Daniel. Bonne journée.
Merci, Paul.
Au revoir. Daniel Renault, qui est de l'équipe d'enquête à la presse.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.